jeu d'art le 10 octobre 90.
Le point de départ de la métaphysique. Comment la métaphysique, la naissance de la métaphysique, comment la philosophie première apparaît avec Aristote, donc le passage de Platon à Aristote, qui ne perd jamais son temps au plan philosophique à lire un peu Platon. Pour mieux comprendre comment le brouillard matinal va permettre au soleil de se lever, n'est-ce pas? Alors on voit le passage de Platon, c'est quand même le brouillard matinal, Platon, avec de très belles choses. La beauté, c'est la beauté, Platon. Et la bonté est là. Et comment Aristote va arriver à mettre l'être au-delà de l'un et du bien. C'est pas si commode. Et ceci parce qu'il revient à l'expérience dans ce qu'elle a de plus fort, l'intelligence liée aux sensations. C'est le toucher permet ce dépassement. L'intelligence liée au toucher. C'est dit chez Aristote d'une manière très nette au début de sa métaphysique, quand il dit que l'expérience est le point de départ de la philosophie. Tandis que chez Platon, le point de départ reste le point de vue de la réminiscence avec un aspect critique dans Parménide où il essaie de justifier le point de vue du primat des idées par la première découverte de l'induction. Mais ça reste une induction, j'allais dire, très formelle. Mais je crois que c'est l'influence d'Aristote. Le jeune Aristote est là. Alors, évidemment, selon les critiques habituelles, on dit que ce jeune Aristote n'est pas Aristote. On ne sait pas c'est qui, vous savez rien. Il y a un Aristote qui est à l'école, mais c'est sûrement pas celui-là. Ce serait trop beau, comprenez, si Aristote avait fait la critique de Platon. Il y a un petit problème historique qui est très intéressant. Je crois qu'on n'arrivera jamais à l'élucider, parce que ça reste un problème très caché. Mais ce qui est sûr, c'est que le Parménide représente le moment autocritique de Platon. Et il rebondit en montant l'un qui est premier. On reverra tout ça progressivement. Immédiatement après Aristote, il y a d'autres écoles qui vont, d'une certaine manière, mettre en pleine lumière le primat de l'éthique, de la morale. Le primat d'une philosophie contemplative, spéculative, va durer qu'un instant. C'est très curieux. Parce que le successeur d'Aristote n'a pas la même vigueur intellectuelle. Et alors on voit les écoles stoïciennes, épicuriennes. Alors évidemment, l'attitude d'Aristote continue, celle de Platon continue aussi. Mais il il n'y a plus cette vigueur tout à fait particulière à Aristote, d'une intelligence qui, en quelque sorte, chemine seul. Le nous séparer. Je crois qu'il faut être très attentif à cette expression d'Aristote. Le nous séparer. Et ça ne se voit plus après. Ça a été un moment. Il y a deux affirmations très importantes sur le point de vue de l'intelligence, Anaxagore et Aristote. Anaxagore, segregatus ut imperet, faut être séparé pour commander. Et Aristote, faut être séparé pour contempler. Alors il y a les deux segregatus, les deux séparations. Pour Anaxagore, c'est de l'ordre pratique. Anaxagore est bien avant Aristote. Pour Aristote, la séparation est pour la finalité et la contemplation. Il y a là, je crois, une intuition à travers l'expérience et dans l'expérience qui est très importante, où Aristote sauve le primat de la contemplation que son maître Platon avait affirmé avec beaucoup de force. On ne peut pas nier que Platon affirme un primat de la contemplation. C'est la grandeur de Platon. Mais une contemplation qui est commandée ou qui demande de s'épanouir en une attitude politique. Le philosophe contemplatif doit être roi. Pour Aristote, le philosophe contemplatif a tout dans sa contemplation. Il n'a pas besoin d'être roi. C'est la tiare qui tombe et la contemplation reste à l'état pur. C'est vraiment le passage entre les deux. Il y a quelque chose de très particulier là. Et je crois que c'est à cette hauteur-là qu'il faut sentir le débat. Il faut sentir au point de départ la réminiscence qui met un primat du vécu et l'expérience, l'intelligence liée au toucher. Je crois qu'Aristote est le premier philosophe qui montre l'importance du toucher. Et ça, c'est capital. Parce que ça fait comprendre jusqu'où Aristote voit l'expérience. C'est l'intelligence liée au toucher. À ce point de vue-là, vous voyez, il y aurait une analogie entre Aristote et Jean-Baptiste. Il montre, le toucher montre, voici, ceci est. Alors il y a cette expérience de l'intelligence liée au toucher qui est le point de départ. Et puis, le point de vue ultime d'une contemplation qui est vécue pour elle-même. Alors je vous disais que ceci nous permettait de comprendre une distinction capitale que fait Aristote entre le premier génétique et le premier sur l'ordre de perfection. Le premier génétique, c'est le point de départ de notre vie intellectuelle. Et le point de départ de notre vie intellectuelle, c'est toujours l'expérience, le toucher. Et le terme, le premier dans l'ordre de perfection, c'est la contemplation. Alors, une distinction que je crois très importante, qui est peut-être le secret de la philosophie d'Aristote, étant donné la complexité de l'homme, au point de vue de sa connaissance, il faut toujours distinguer Le premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de nature, de perfection. Parce que ceci permet de comprendre que l'un n'est pas ultime. Puisqu'il y en a deux, point de départ. Il y a une dualité. Et cette dualité est résorbée par l'être. Puisque le point de départ, c'est l'être. Et le terme, c'est l'être. Le point de départ, c'est l'être en devenir, dans le mouvement. Toutes nos expériences touchent une réalité mue. Et la contemplation touche une réalité immobile. Mais c'est l'être des deux côtés. Alors, je crois que c'est là où Aristote peut faire le dépassement face à Platon. Pour nous, c'est très important de bien voir ça. La topique historique, c'est de montrer que nous ne pouvons pas, d'un seul trait, effacer le passé. Oui, à ce point de vue-là, on rattrape la réminiscence de Platon en comprenant que tout homme implique une mémoire. Je ne peux pas faire l'économie de l'histoire, de l'histoire de la pensée. Je ne peux pas dire je vais tout réinventer. Oui, c'est une tentation. C'est la tentation de l'artiste. Mallarmé. Mallarmé dit ça textuellement. Il faut tout effacer pour naître. Claudel disait la même chose. Quand on demandait à Claudel, quand il venait à Fribourg, parce qu'il aimait beaucoup le cardinal Journet, avant qu'il soit cardinal, alors il venait de temps en temps. Et quand on lui demandait quel est celui qui a eu le plus d'influence sur vous, Claudel répondait avec son affirmation de taureau. C'est un taureau, Claudel. Eh bien, personne. Donc il était Dieu dans la poésie. Oui, mais ça, c'est très grave. Donc ça se comprend pour le poète, mais pas pour le philosophe. Parce que le philosophe est au service de l'homme. Or, nous sommes du XXe siècle. Je ne fais pas une philosophie intemporelle. Je fais la philosophie de l'homme actuel. De l'homme tel qu'il est. Alors, je vois son point de départ dans le temps. Le premier dans l'ordre génétique. Et le premier dans l'ordre de perfection. L'homme est capable de dépasser son temps. Ne sommes pas liés à une mode. Si on est philosophe. Si on est philosophe, on est capable de dépasser le temps pour atteindre l'éternité. Le premier dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est. grâce à ça, on peut sauver l'homme par l'amour. Un amour désintéressé. Un amour contemplatif. Un amour d'amitié. Donc le salut de l'homme vient formellement, il est dans la contemplation et l'amour d'amitié. Mais c'est grâce à l'intelligence, là aussi, que je vois qu'il y a deux bonheurs dans l'homme. La contemplation et l'amitié. Tandis que chez les stoïciens, on retrouve alors le primat volontaire. Au-delà des stoïciens, on retrouvera une sorte de métaphysique, de philosophie première, liée à l'éthique, qui sera avec Plotin une sorte de philosophie mystique. Ce sera le néoplatonisme. Et je crois que le néoplatonisme ne pouvait pas naître sans le stoïcisme. Il y a un lien très curieux entre les stoïciens et les néoplatoniciens qui permet du reste de comprendre profondément ce que c'est que le néoplatonisme. Le néoplatonisme, c'est bien un retour à Platon. Mais Plotin, c'est aussi quelqu'un qu'on doit absolument connaître à cause de l'influence du néoplatonisme sur la théologie. Donc voyez, vous avez Platon, Aristote, les stoïciens. Alors mettez Épictète. Avant Platon, mettez Parménide, Héraclite, et puis les pythagoriciens. Je crois qu'il y a trois ancêtres. Les pythagoriciens, qu'il ne faut pas oublier, il y a trois ancêtres. Philosophie prend naissance avec Platon. Elle se précise avec Aristote. Elle retombe dans le point de vue pratique. Et elle se relève avec Plotin. C'est très curieux. Grandeur et décadence de la philosophie. Et je crois que ce sont les quelques-uns auxquels il faut tout le temps revenir. Il y en a beaucoup d'autres, parce que vous pouvez mettre Épicure, mais c'est au point de vue philosophie, grandeur de la philosophie. Ce qui est très net, c'est que cette philosophie est au service de l'homme. Le philosophe est un sage. C'est-à-dire, il est pour l'homme celui qui lui montre la route. Cette expression extrêmement forte de Sénèque, donc un stoïcien. Un stoïcien latin, quand il parle du philosophe, quand il parle nati sunt, ou d'exemplaire, je crois que ça définit admirablement le philosophe stoïcien. Ils sont nés pour être exemplaires, modèles, porte-drapeau, nati sunt, ou d'exemplaire. Aristote n'aurait jamais dit ça. Platon, il est roi. Aristote, il est serviteur. Les stoïciens, ils sont exemplaires. Et le néoplatonisme essaie de montrer toute la splendeur de l'homme philosophe qui est un avec Zeus, avec Dieu. ici. C'est la contemplation qui domine. Avec deux modalités différentes. Chez Platon et chez Aristote, puisque la contemplation chez Platon va impliquer le point de vue de la royauté, le point de vue politique. Et chez Aristote, la contemplation retrouve à l'état pur. Donc le seul qui nous donne une contemplation vraiment comme le sommet de tous d'Aristote. Un contemplatif est nécessairement aristotélicien. Autrement, il quitte sa contemplation pour aller à la Chambre des députés. Et pour essayer un jour d'être président de la République. Et quand il est président de la République, il veut devenir roi. Venez. Alors ça, c'est tout à fait Platon. C'est que ça te démange, venez, pour avoir le pouvoir absolu. Parce que c'est ennuyeux d'avoir des députés et le Parlement derrière. Tandis que si on peut être au-dessus. Ça, c'est la contemplation qui devient politique. On se sert de la contemplation pour gouverner. Tandis que dans, et ça, ce n'est plus la contemplation. La contemplation, elle doit être gratuite. Elle doit être à l'état pur. Bon, c'est plus la contemplation. Si on se sert de la contemplation pour gouverner, ça ne va plus du tout. Alors, Épictète, c'est l'union. Il y a des choses très belles. Hein. Épictète, l'esclave devenu philosophe. À ce point de vue-là, Épictète, il a aujourd'hui, ce serait merveilleux, vous voyez, l'esclave devenu philosophe. Il a fait tout pour passer de l'esclavage au philosophe. Alors pour Épictète, ce qu'il y a de plus secret, c'est ce choix, la proairesis, le choix qui nous unit à la volonté de Zeus. Plus la contemplation. Ce n'est pas non plus l'aspect purement politique. J'allais dire, c'est la clé de voûte du point de vue de l'action. On s'unit à Zeus, à la volonté de Zeus. C'est ça la grandeur. Une sorte de philosophie de l'abandon. C'est pas l'adoration, c'est l'union à la volonté de Zeus. Ce qu'on cherche, c'est la volonté de Zeus. Donc la volonté de Dieu. Et puis alors, Plotin, donc il n'y en a qu'un qui monte à contemplation, à l'état pur, chez les Grecs, Aristote. Et qui montre le point de départ à l'état pur, l'expérience. On peut dire ça, c'est, je crois, la tension la plus grande, le premier génétique, le premier dans l'ordre de nature. Cette distinction qui n'existe pas chez Platon, Parménide, Héraclite et les Pythagoriciens, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas encore pleinement précis et déterminé, mais c'est quand même fondamental. Pour nous, ensuite, je vais, en gros, hein, parce qu'il s'agit de se situer aujourd'hui, vous avez la rencontre de la pensée avec la foi chrétienne. Je crois qu'il y a là un moment extrêmement important. Si on veut comprendre notre situation, l'Europe, la rencontre de la foi avec la philosophie s'est faite en Europe. Et c'est quelque chose qui a joué un rôle capital. On pourrait dire, hein, comprenez bien, que chez les Grecs, c'est le logos face aux traditions religieuses. Ce que Heidegger dira, le logos face au mythos, au mythe. Vous voyez, le logos ordre symbolique. Ils sont donnés dans un symbole mythique. Et le mythe impliquant toujours une vision de l'homme au point de vue de son point de départ, la naissance de l'homme, l'apparition de l'homme et son terme. Et c'est le symbole qui s'empare de l'histoire de l'homme, qui est projeté dans un mythe. Mais le symbole n'implique pas un récit par rapport à l'homme. Le symbole est simplement une manière extrêmement concrète de traduire le logos. Alors, on peut dire que toute cette première période, qui est la période grecque, qui est la naissance du logos, on ne peut pas le nier, c'est la naissance du logos. Logos, je ne sais pas comment il faut le traduire. Hein. En Sorbonne, on traduit discours. Ouais. On l'a traduit comme ça. Je ne sais pas maintenant comment on le traduit, parce que les traductions varient. Le logos, c'est, je crois qu'il faut dire que c'est l'intelligence qui réalise son fruit. C'est le fruit de l'intelligence, le logos. C'est la pensée, si vous voulez. C'est le concept. Mais c'est aussi le fondement du concept. En latin, ça se traduit en ratio. Mais c'est très difficile à traduire. Sauf qu'il faut presque mieux garder le logos grec, parce que la philosophie grecque, c'est la naissance du logos. Face au moutos. Je crois que là, Heidegger a bien saisi, parce que Heidegger a un amour extraordinaire pour la philosophie grecque. Et montre que tout est né avec Parménide. C'est Parménide qui, pour lui, est le philosophe qui a donné le sens à la philosophie. Donc, on voit toute cette période, et je crois qu'avec ces quelques grands, on a bien le cheminement du logos, le cheminement de la pensée, avec ses sommets. Alors, seconde période, c'est le logos grec et la foi. Gilson, faisant une conférence à Rome, me disant juste avant de commencer sa conférence, vous allez voir, je vais leur montrer à Rome que les Latins n'ont rien inventé. Et que tout vient de la Grèce. Au point de vue de la pensée et au point de vue de l'art, c'est très vrai. Les Romains sont des juristes. C'est le droit. C'est le droit avant tout. Mais le droit commence avec les stoïciens. Très curieux. La loi naturelle, qu'on exalte tellement, la loi naturelle, c'est stoïcien. Et les Romains l'ont pris, parce qu'évidemment, quelle est la philosophie qui était à Rome au moment où Rome commence? C'est les stoïciens. Épictète, c'est l'an 50, après Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quand même très important de voir ça. Qu'est-ce qu'on... Quand Jésus était à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y avait à Rome? Qu'est-ce qui se mijotait à Rome? Eh bien, se mijotait à Rome la philosophie stoïcienne. C'était les stoïciens avant tout. Et ça allait très bien avec les Romains. Il y a une espèce de complicité entre les Romains et les stoïciens qui est très curieuse. Tandis qu'évidemment, Plotin n'est pas très romain. Je ne vois pas très bien Plotin romain. C'est le cri du cygne dernier. Parce qu'après Plotin, on a des commentateurs. Et les commentateurs, c'est une sorte de scolastique. C'est la scolastique néoplatonicienne, avec Proclus, Damasius, qui sont des gens très grands, qui ont une très grande dignité, mais qui n'ont plus aspect juridique qui s'impose très fort. Alors, on peut dire la second grand moment, c'est le logos et la foi. On va puiser dans la philosophie grecque. Et on commence d'abord par les stoïciens. C'est le logos stoïcien qui commence. Puis, ce sera le logos néoplatonicien et platonicien. Et en dernier lieu, le logos aristotélicien. C'est très curieux de voir ça. Si on essaie de suivre le développement de ce que représente la théologie. La théologie, la foi, se sert du logos philosophique. Et se sert du logos philosophique de manière différente. Voyez, ces deux moments sont très très différents, puisque le logos philosophique grec essaie d'absorber le symbole et le mythe des traditions religieuses. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du logos et de la foi chrétienne domine et va relativiser le logos grec. Il y a un mouvement inverse. Mais c'est très important, je crois, de comprendre ces deux moments très particuliers. Le point de vue religieux. La philosophie naît dans un climat religieux. La philosophie, ensuite, est au service de la foi. Alors, troisième moment. Donc là, au point de vue philosophique, il n'y a rien de particulier puisque le logos grec est gardé par le croyant et mis au service du croyant. Vous n'avez pas de nouvelle philosophie dans saint Thomas. Saint Thomas est un théologien. Et le théologien n'essaie pas d'être philosophe. Le théologien, il vit dans une chrétienté. Et il est serviteur d'une chrétienté. Il est là pour donner à la chrétienté la parole de Dieu de la manière la plus pure et la plus pénétrante qui soit. C'est la grandeur de saint Thomas. Et saint Thomas, grâce à Aristote, a pu donner une théologie scientifique que certains considèrent quelque chose de terrible, d'autres considèrent que c'est merveilleux. Vous avez là les deux aspects. Aujourd'hui, en majorité, on trouve que saint Thomas, c'est très dangereux. C'est très dangereux, surtout pas. Vaut mieux maintenant le mettre dans une boîte et le laisser. Le thomisme est dangereux. Très dangereux. Parce qu'il vous donne un regard trop pénétrant. Alors il risque de supprimer le croyant. La petitesse évangélique. Alors c'est pour ça qu'il faut bien voir la situation. Hein. De fait, quand on dit on aime saint Thomas, vous êtes tout de suite classé. C'est tout juste si on ne dit pas vous êtes Monseigneur Lefebvre. C'est tout de suite. Il faut encore faire des distinctions. Or, beaucoup ne font pas de distinctions. Troisième moment, la révolte, la revendication. On pourrait dire, vous voyez, comme il y a la théologie qui veut revendiquer les droits de l'homme, il y a une philosophie qui veut revendiquer les droits de l'entendement. Vous avez Descartes. La tyrannie. Des théologiens, faut bien le dire, la tyrannie des théologiens fait qu'il y a une sorte de révolte pour revendiquer les droits de l'entendement. Curieusement, philosophie de la libération. Descartes, c'est la philosophie de la libération. Le philosophe veut avant tout retrouver. Alors, ce qui est très curieux, comment l'homme va-t-il se libérer de la théologie? La naissance de la libération, c'est de découvrir qu'il y a au plus intime de notre capacité de connaître, de notre cogito, qu'il y a des idées innées, antérieures à la foi. C'est la seule manière de se libérer. C'est de découvrir qu'il y a en nous des idées innées. La grande invention de Descartes. Où il y a un lien avec les stoïciens et le néoplatonisme. Puisque pour Platon, il y a une contemplation innée, antérieure au lien avec le corps. Il y a une vie de l'intelligence séparée des sensations que je redécouvre avec la réminiscence. Et c'est curieux que Descartes se libère dans un certain stoïcisme, une certaine attitude volontariste au service de l'idée innée. Mais il y a un lien avec Épictète. Parce que grâce à ces idées innées, je rejoins Dieu. Les idées innées me permettent d'être en contact direct avec Dieu. L'idée de perfection, l'idée d'infini, me permet de découvrir au plus intime de moi-même ma parenté avec Dieu. Et ça, c'est quand même le désir très profond d'Épictète. Et on retrouve ça chez Descartes, et par là, je me libère. Vous voyez, il y a un primat. Je dis bien, il y a un primat de l'idée sur la foi. Et ce primat de l'idée sur la foi permet à la philosophie de reprendre un nouvel élan, indépendamment de la foi. Ce primat est d'ordre génétique et d'ordre de nature. C'est le premier dans l'ordre de nature et le premier dans l'ordre. Vous voyez, c'est là la parenté avec Hegel. Il y a une parenté très fondamentale avec Hegel. Mais la différence, c'est que dans l'hegelianisme, le primat de l'intelligence sur la foi se fait dans la foi qui sauve l'intelligence. Tandis que Hegel n'est pas luthérien, Descartes n'est pas luthérien. Et donc il y a un primat de l'idée sur la foi. sommet. Je peux découvrir Dieu avec une méthode géométrique dont j'aurai la certitude absolue, la plus absolue. Je crois qu'il y a un lien de Descartes jusqu'à Hegel. Très très profond. Très net. Et les deux sont fascinés par Dieu. Oui. Ça, je crois que c'est quand même très important de comprendre ça. C'est là où on voit que les deux sont liés à la théologie. De façon très différente. Mais tous les deux restent, en quelque sorte, fascinés par la théologie. Alors, on verra ensuite. Ceci, c'est pour que nous comprenions notre situation dans la recherche de la philosophie première aujourd'hui. Oui. On se sert d'Aristote, non pas pour être avant tout en premier les disciples d'Aristote, c'est pas ça.